On avait évoqué déjà hein, cette rencontre entre Abraham et trois mystérieux visiteurs. On y avait découvert Abraham, le Bédouin, offrant simplement à trois étrangers de passage un peu d'eau, le lavement de leurs pieds, une bouchée de pain à l'ombre des chênes de Mamré. Et nous avions vu aussi que pour offrir cet accueil, Abraham avait simplement fait silence. Il avait observé et identifié aussi les besoins des visiteurs. Et finalement, les trois étrangers avaient pris la parole, rompant le silence. Fais comme tu as dit. Il s'ouvre ainsi très librement à l'accueil que offre Abraham. Et pour le moment, Abraham ne sait pas qui se trouve devant lui. Seul le lecteur est mis dans le secret du narrateur. C'est une petite stratégie de la narration. Nous savons qu'il s'agit du Seigneur. Abraham ne le sait pas. Il y a du suspense, en quelque sorte, qui s'installe dans le récit. Et nous, les lecteurs, on se demande à quel moment et comment et de quelle manière Abraham va-t-il découvrir qu'il accueille sous son toit Dieu en personne. Et en attendant que le voile se lève sur le mystère de la présence de Dieu chez Abraham, la caméra est focalisée sur Abraham qui s'affaire dans tous les sens. Et Abraham fait ce que tout homme fait quand il est en recherche d'efficacité. Il fonce voir sa femme. Il y a certains hommes qui rient là, hein, je crois qu'on me comprend. Et il prononce le mot que tous les hommes débordés prononcent dans ces circonstances-là. Vite ! Pétris trois mesures de fleurs de farine, fais des galettes. Alors moi, je suis frappé par la quantité de nourriture qu'Abraham commande à Sarah. Et sans oublier la qualité. Il ne s'agit pas de prendre de la farine ordinaire, mais de la fleur de farine, et d'en pétrir trois boisseaux. Trois mesures. Bon, ça fait juste 50 kilos de galettes. Hein. Abraham est en train de préparer un repas gargantuesque. Le jeune veau, tendre, ça, c'est la viande des grandes occasions. Il y a du bon lait frais pour se désaltérer et du caillé qu'on peut servir soit en fromage, soit en dessert. Hein. C'est une question de préparation. Enfin, un véritable banquet préparé dans l'urgence. Abraham ne fait finalement... Il ne fait pas que donner des ordres, hein, vous l'avez vu. Comme chef de clan, il aurait pu aller s'asseoir à l'ombre des chênes avec les visiteurs et palabrer toute l'après-midi en regardant les femmes et les serviteurs faire le boulot. Non. Abraham sert lui-même ses invités. Il prit du caillé, du lait et le veau préparé qu'il plaça devant eux. Il se tenait sous l'arbre, debout, près d'eux, comme un serviteur. Tout est mis en œuvre pour le bien-être et le repos des visiteurs. Il ne s'agit pas seulement de manger. Il n'est pas seulement question ici de faire une pause. Il s'agit d'être heureux à l'ombre des chênes, ensemble. Ces gens ne se connaissent pas. Ils n'ont échangé que quelques paroles de bienvenue. Mais c'est ainsi que fonctionne l'hospitalité biblique. Avant de parler, avant de savoir à qui on a affaire, avant de faire alliance, on mange. On se fait du bien. on s'occupe. Et on prend soin du corps de celui qui est là. Vous savez, en Orient, au Liban, quand nous étions, on ne pouvait rien entreprendre avec quelqu'un sans avoir montré les photos de la famille, sans avoir pris des nouvelles. Sans... On passait un temps fou. Mais sans cela, on n'était pas bien pour faire affaire ensemble. Pour Paul Ricoeur, un philosophe protestant, je cite, « Avant l'hospitalité des convictions, vient celle des corps. » Avant l'hospitalité des convictions, vient celle des corps. Si les corps ne se détendent pas sous l'effet des soins, eh bien, les cœurs restent fermés. Il naît, comme ça, de la donation, de l'accueil, il naît une paix profonde et réciproque. C'est dans cette tradition biblique de l'hospitalité que va puiser aussi cette fameuse sentence que Paul va attribuera à Jésus, qui n'est pas dans les évangiles, mais que Paul attribue à Jésus, et il dit « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Et tout est prêt maintenant pour la rencontre. Mais l'énigme de l'identité du visiteur demeure entière pour Abraham. Qui sont ces visiteurs? Il ne sait toujours pas. Depuis le début du récit, il y a comme une hésitation permanente entre le 1 et le 3. Le 1 et le 3. Dès les premiers mots, le lecteur est mis dans le secret. Alors, le Seigneur, hein, c'est nous qui le lisons, arrive en personne. Mais Abraham, lui, ne sait pas. Il voit trois hommes, mais à qui il adresse pourtant la parole au singulier, mon Seigneur. Puis il leur parle au pluriel, c'est en bleu cette fois. Et comme si ce n'était pas assez compliqué comme ça, les trois hôtes, les trois visiteurs eux-mêmes, jouent aussi sur l'alternance du pluriel et du singulier. Tantôt ils parlent d'une voix plurielle, vous avez vu en bleu là, alors c'est ici, ils mangèrent et lui dirent, tantôt, un seul s'exprime au singulier. Je, en jaune. Et pour couronner le tout, quant au chapitre suivant, les anges arrivent à Sodome, vous savez, ils partent, hein, et puis ils arrivent à Sodome, mais ils ne sont plus que deux. Et savoir s'il y en a un qui s'est perdu, on ne sait pas. Ce que je comprends de cette ambiguïté entre le 1, le 2 et le 3, c'est que le récit cherche à nous perdre, volontairement. Pour nous dire que, quelque chose d'un peu important quand même, c'est qu'en nous visitant, Dieu nous échappe toujours. Vous voyez ? Dieu nous visite, mais jamais on peut en être le propriétaire. Cette énigme donc du 3 et du 1 a longtemps fasciné toute l'histoire de l'Église, les théologiens et les pères de l'Église, était vraiment focalisé sur ce mystère-là. Origène, Ambroise, ont vu dans cette alternance de singulier et de pluriel ici une allusion au mystère de la Trinité, de la triunité divine. Un seul Dieu en trois personnes. Ce qui est sûr, c'est qu'Abraham hésite. Un peu comme, vous savez, un peu comme quand on ne sait pas si on doit tutoyer ou vous voyez quelqu'un. On jauge, on ne sait pas trop. Et Dieu, lui, s'entoure de ce mystère. Il cultive l'ambiguïté dans une intention précise, comme s'il voulait qu'Abraham ne dissocie jamais l'accueil de l'étranger de l'accueil de Dieu. Ce serait tellement facile d'accueillir Dieu si l'on savait que c'était lui qui frappait à notre porte. Bonjour, c'est Dieu. Ah bah là, on met les petits plats dans les grands, hein. Non, il y en a certains qui seraient un peu inquiets, non ? Je sais pas. J'entends dire quelquefois, ah, si j'avais vécu en Galilée dans les années 30 du 1er siècle. J'aurais suivi sur les chemins de Galilée ce Jésus de Nazareth. J'aurais entendu sa prédication première main. Ce serait tellement plus facile de croire comme ça. Mais bon, dans l'Évangile, il y a tellement de gens qui ont croisé sa route et qui ne l'ont pas compris et qui ne l'ont pas reconnu et qui l'ont crucifié. Aujourd'hui, c'est jour des rameaux. Raphaël nous l'a rappelé. Et on accueille partout dans l'Église du monde le Seigneur avec des hosannas puissants, joyeux. On salue son entrée triomphale dans Jérusalem avec des rameaux d'olivier parce qu'on voit en lui un Messie libérateur de l'oppresseur romain. Ça, c'est au 1er siècle, dans les années 30. Et quelques jours plus tard, on criera « Crucifie-le !» Le malentendu est total entre ceux qui l'ont vu et Jésus. Et c'est pour éviter, justement, tout malentendu sur sa personne que Jésus préfère s'identifier lui-même à l'étranger. J'étais étranger et vous ne m'avez pas accueilli. Il est cet étranger qui sonne à la porte au plus mauvais moment de la journée. L'hospitalité ne se donne véritablement que dans cette ouverture gratuite à l'autre, à l'étranger qui dérange toujours. Tout le reste, finalement, n'est que mauvais calcul. Alors, à la fin du banquet, le silence est rompu. Les étrangers demandent « Où est Sarah, ta femme ?» La question a l'air toute simple, toute bête. Hop. Oh là là. Ça s'emballe, là. Voilà. La question est toute simple, mais on imagine mal l'effet que cette question a eu sur Abraham. Sa réponse ne traduit pas bien ce bouleversement. Elle est purement informative. Elle est dans l'attente. Mais après ça, on n'entendra plus notre pauvre Abraham parler. Plus un mot. Qui a appris à ces étrangers que sa femme s'appelait Sarah ? Ce nom, Sarah, c'est le nom que le Seigneur lui a donné alors qu'elle s'appelait encore Sarai. Ce jour où la promesse d'un fils leur avait été faite. Abraham, maintenant, préfère se taire. Il est bouleversé intérieurement. Et il préfère s'abandonner à la présence de ses trois visiteurs plutôt que de chercher à comprendre ce qui se passe. Et Sarah, qui n'en a pas perdu une, elle se marre en elle-même, précise le narrateur. Elle vient d'en entendre une bien bonne. La vieille promesse pour la vieille dame. La vieille promesse est de retour, mais trop tard. La nonagénaire ne peut plus. C'est la vie. Et le mystérieux visiteur interroge Abraham, pourquoi ce rire de Sarah ? Abraham reste muet, comme paralysé par cette nouvelle question. Cette nouvelle question ne peut pas venir d'un simple homme. D'abord, comment a-t-il deviné que Sarah riait intérieurement ? C'est impossible à savoir. Vous êtes en train de rire intérieurement, là ? Ben non, je vous vois sourire, donc vous riez extérieurement. Sarah était aussi à l'intérieur de sa tente et à l'intérieur d'elle-même, et l'étranger entend son rire silencieux. Abraham commence à se dire, à moins qu'il y ait ici plus qu'un trio de visiteurs de passage. C'est le Seigneur qui est là. L'année prochaine, le sourire du doute sera transfiguré en sourire de joie. La joie de la maternité, la joie d'un commencement, la joie d'un renouveau spirituel. La promesse de Dieu, finalement, c'est un peu comme ça dans nos vies, non ? Revient au moment où on n'y croit plus, ou bien au moment où elle est devenue un texte purement formel, un truc à croire, quelque chose qui est bien rangé quelque part, là. Et pour nous aussi, frères et sœurs, elle est comme ça, la promesse de Dieu. Elle est imperturbable. Elle est obstinée. Elle revient. Elle revient quand tout est soldé, quand tout semble perdu, quand c'est trop tard. Elle revient en son temps, perturber les cœurs, troubler les existences. Elle ne manque jamais son but. C'est une question de temps, une question de foi, d'espérance et d'amour, oui. Y a-t-il une chose trop prodigieuse pour le Seigneur ? Voilà, sœurs et frères, à quoi peut conduire la philoxénia. L'amour de l'étranger, traduit dans nos Bibles par l'hospitalité. L'hospitalité biblique dont je vous parlais il y a 15 jours. Abraham, en offrant l'hospitalité à l'étranger, ne savait pas où le conduirait cette histoire. Et en réponse à son acte de foi, Dieu lui accorde ce qu'il désire le plus au monde, ce qu'il n'a pas obtenu. Une descendance pour que cette rencontre de Mamré ne soit jamais reléguée au rang des anecdotes de la vie, vous savez, les trucs qu'on aime bien raconter. Non, mais que cette rencontre fondatrice fasse des petits, au sens physique, biologique, oui, mais aussi au sens figuré. Qu'elle crée de la vie, de la rencontre, de l'amour, de la foi. Oui, que cette rencontre entre Abraham, Sarah et les visiteurs étrangers, qu'elle devienne un appel universel à faire confiance, à ouvrir la porte de sa maison et la porte de son cœur et à donner sans compter. Que cette histoire, au fond, devienne une bénédiction pour tous les peuples de la terre, pour ceux qui ont tout et pour ceux qui n'ont plus rien du tout. Accueillir un étranger peut nous guérir de notre stérilité, peut nous guérir de ce besoin maladif de posséder, de contrôler. Elle peut nous faire devenir quelqu'un que nous ne connaissons pas encore, mais qui gagnera à être connu. Ce récit nous place devant une question simple, sœurs et frères. Sommes-nous capables, désireux, de prendre le risque fou de l'hospitalité de Dieu dans nos vies ? Et la réponse est toute simple, très pratique. Elle est déroutante aussi. Ouvre ta porte à l'étranger et tu découvriras, émerveillé, que c'est Dieu qui a mangé chez toi, qui a dormi chez toi. et en réponse à l'ouverture de notre porte et de notre cœur, cette parole sera alors prononcée. J'étais étranger, tu m'as accueilli. Alors, dubitatif, le sourire en coin, je répondrai peut-être « Quand ai-je accueilli ?» Il me sera répondu « Ce que tu as fait à l'un de ces tout-petits, c'est à moi que tu l'as fait. » Amen.